Auditeur de France Inter, je voudrais vous lancer un vibrant appel, faire appel à votre générosité pour une cause qui vraiment, mais vraiment vaut la peine. Je sais que vous êtes sollicité de partout, les temps sont durs, on vous demande de l'argent ici et là, mais là vraiment, faites un effort. Les monarchies pétrolières du Golfe ont perdu depuis le début de la crise 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Et elles ne savent plus où donner de la tête. Alors, un petit geste. Sortez de l'argent de vos porte-monnaies. Faites un effort pour ces pauvres monarchies du Golfe. Voilà. Moi, je sors mon mouchoir.
Salut, je voudrais juste vous lire l'éditorial publié aujourd'hui dans Libération, vendredi 24 octobre. C'est l'éditorial. Il s'appelle « Première fois ». Encore une fois, Libération innove. Comme le lecteur l'aura remarqué, le numéro du journal qu'il a entre les mains est imprimé sur un papier habituellement réservé aux magazines. Cette première fois a été rendue possible grâce à un accord passé avec la société Chanel. Nous offrons ainsi à nos lecteurs un Libération Collector présenté sur un support de qualité supérieure pour un prix inchangé. Déjà dans les années 80, nous avions imprimé Libération sur du tissu. L'équipe du journal s'efforce de réaliser un quotidien de grande qualité. Cet effort de contenu est symbolisé aujourd'hui par la qualité exceptionnelle du contenant. Annonceur élégant, Chanel a respecté avec nous le principe de notre charte, qui postule la séparation stricte de la publicité et de la rédaction. C'est un cadeau que nous offrons en commun à ceux qui sont attachés au prestige de l'écrit et qui croient en ces temps de dématérialisation à l'avenir de la presse papier. Pour des raisons techniques, ce livre est spécial disponible dans les trois quarts des points de vente. Les autres recevront un numéro normal, mais trouveront demain cette édition particulière.
Ce poème s'intitule « Allô Daniel ». Mercredi dernier, nous étions décidés à monter le premier repère perpignanais lorsque soudain, la main vicelard des plastifiés de la justice se glissa dans l'intégrité physique du slip d'un de ses modestes et géniaux auditeurs. Il est à noter que ce jeune homme s'apprêtait à soutenir au tribunal de Perpignan une femme jugée pour avoir hébergé un sans-papier. Le préposé à la fouille, à l'entrée du dit tribunal, trouve dans le sac du malheureux auditeur un couteau oublié lors d'un camping du week-end précédent. Après 4 heures de garde à vue et après investigation anale sur notre ami, il fut condamné à 2 ans de mise à l'épreuve et 2 ans d'interdiction de tribunal. Du coup, il est arrivé en retard au premier repère, je le répète, perpignanais. Et ça nous rend furax. Alors s'il vous plaît, viendez vite, tous les mercredis à 19h au Lisboa, sur la place Rigaud à Perpignan. Au revoir.
Salut les auditeurs joyeux de Mermet. Lundi, salle gendarme, rue Léopold Bellan, création du mouvement des semeurs volontaires. Venez nombreux nous soutenir, venez nombreux soutenir tous les citoyens qui veulent sauver la biodiversité. Biodiversité. 17 rue Léopold Bellan, salle gendarme, métro, sentier. Venez nombreux.
Dis-moi, Daniel, est-ce que tu peux m'aider, là? Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est un peu trop dur pour moi. On dit toujours, voilà, on a dit perte de 600 millions d'euros à la caisse d'épargne, perte de tant de milliards à droite, perte de tant de milliards à gauche. Pourquoi on n'utilise pas simplement le mot vol? Ça serait quand même, serait quand même plus normal, je pense. Le mot vol n'est pas réservé qu'au petit pop, à la plèbe. Vol d'un sandwich, vol d'une miche de pain, vol d'un scooter, vol de X, voilà. Hein? Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, Daniel. Allez, salut, c'est Jackie Adulfi.
L'histoire nous montre que la raison des gens responsables finit toujours par l'emporter sur la soumission des gens résignés. Parce que l'articulation théorie-pratique ne peut plus rester théorique. Parce que la lumière qui éclaire, voici peu, l'évolutionnaire, démocratisation de la culture et des savoirs ne doit plus jamais s'éteindre dans nos salles de cours. Parce que l'avenir de nos enfants ne peut plus s'entrevoir par la seule lucarne néolibérale des politiques économiques actuelles. Parce qu'on ne peut plus laisser nos gouvernants détruire impunément réformes après réformes tout le travail accompli jusqu'alors par nos aînés au sein de notre école de la République. Oui, le temps de la désinformation a assez duré. Il est grand temps à nouveau de nous jeter à l'eau, comme dit Jean-Louis. Sachons être convaincants, car il convient d'agir vite et tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, en 1547, dans son discours sur la servitude volontaire, tu en parles souvent, hein, d'Étienne de la Boétie, eh bien, il écrivait deux choses dans ce livre importante. Il écrivait « Ils ne sont grands et tout-puissants que parce que nous sommes à genoux », et je rajouterai « et divisés ». Il écrivait aussi « C'est le naturel du menu peuple d'être soupçonneux à l'endroit de celui qu'il aime et naïf envers celui qui le trompe ». Voilà, je pense que le temps n'existe pas sur ces choses-là. Donc, réagissons. Signez la pétition « Une école, un pays, notre avenir ». Voilà, c'était Eric, enseignant essonien. Voilà, salut.
Salut tout le monde, c'est Eric de Nozère, Loire-Atlantique. Je viens d'avoir une idée lumineuse pour les agences de notation, hein, des gens qui sont pas pour rien dans la super crise actuelle. Alors ils donnent des notes aux pays, aux établissements financiers, aux grandes sociétés, etc., etc. La meilleure note c'est AAA. Et je viens de trouver dans un éclair de génie la nouvelle définition de AAA. Hein, la meilleure note pour les agences de notation, c'est avidité, aveuglement et amnésie. Je vous embrasse. Salut.
Ah ah ah, bravo et merci pour ces messages, celui-là et les autres, chers AMG. Aujourd'hui, retour des États-Unis, sur la route du retour depuis les États-Unis, avec de bonnes nouvelles. Nous étions à Darien. C'est une petite ville de Connecticut au nord de New York sur la Golden Coast, la Côte d'Or, où se retrouvent les gens les plus riches des États-Unis, pas seulement de la région, mais des États-Unis. Tous les traders de Wall Street, les gens qui sont dans la finance, ont leur maison dans ces endroits tout à fait charmants. Eh bien, on a une très bonne nouvelle. Les riches ne sont pas très inquiets. Un tout petit peu inquiets, mais pas très, très inquiets. La question que nous avons posée toutes ces journées aux États-Unis, c'est évidemment qui gagne et qui perd dans cette affaire. La réponse, elle est tout de suite, elle éclate. C'est qui gagne, les riches, et qui perd. Eh bien, ceux qui perdent, c'est des gens comme nous. On en parlera dans les jours prochains. À partir de mercredi, on commence une série, ce voyage aux États-Unis, de Main Street à Wall Street, de Cleveland, Ohio, à Wall Street, du côté des riches. Les riches qui nous disent qu'ils vont voter Obama, alors que là, par exemple, à Darien, c'est un haut lieu d'un fief républicain. Eh bien, les républicains vont voter pour Obama. Certains vont voter pour Obama. Pourquoi ? À cause du bilan calamiteux, évidemment, de George W. Bush, l'ami de notre président Sarkozy, et aussi parce que Obama ne fait pas tellement peur aux riches, lui non plus. Ça, un petit peu embêtant, quand même, le bilan de Bush, parce que, souvenez-vous à quel point notre président de la République était le dernier des bushistes, le dernier caniche de Bush. C'est quand même notre président. Voilà de quoi il va être question dans les jours prochains dans la base si j'y suis. Aujourd'hui, comment faire fortune, comment s'en sortir. Une chose aussi aux États-Unis, c'est le conseil qu'on vous donne partout, de profiter de la situation, de profiter des faillites, de profiter des subprimes, de profiter de cette catastrophe pour investir et vous enrichir. Eh bien, on va trouver des gens qui savent s'enrichir, qui vont vous donner, chers amis, modestes et géniaux, de très bons conseils. Ce sont les traders. C'était au salon du trading, c'était le 25 avril 2007. Et vous allez être absolument ravis de savoir comment vous en sortir, nous sortir de ce pétrin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, à tous les AMG, auditeurs modestes et géniaux. Je vous relaie ma détresse de père, aujourd'hui. Un père qui a signalé aux autorités, en portant plainte, en saisissant le parquet, que sa fille a été enlevée par sa mère. Ça fait 77 jours que je n'ai pas vu ma fille et je suis absolument démuni, en plein désarroi. Quand je constate dans l'actualité qu'un père qui a enlevé ses enfants indûment le 6 octobre se voit déféré au parquet et mis en examen le 16 octobre, il a fallu 10 jours pour régler l'affaire. Mais quand c'est une mère qui enlève ses enfants, Effectivement, 2 mois et demi après, toujours rien ne bouge. Alors je suis assez sidéré que les choix de politique économique qui sont faits en dévoyant milliard par milliard pour tenter de réparer les dégâts faits par nos chers spéculateurs, on ne les investisse pas, notamment en recrutant des inspecteurs en nombre supplémentaire à la brigade des mineurs, par exemple. C'est là où la confluence des choix de politique économique qui sont faits pèse à tel point sur nos destins. Bon courage à tous ceux qui luttent, et notamment aux pères qui désirent véritablement assumer leur choix paternel. Bon courage à tous. Au revoir.
Ouais, bonjour à tous. Bon, je vous fais part d'une lecture des entretiens de Noam Chomsky qui disait sur les changements apportés aux accords de Bretton Woods. Donc, dans les années 70, quelque 90% des échanges étaient liés à l'économie réelle et concernaient le commerce et l'investissement à long terme. Aujourd'hui, de tels échanges ne concernent plus l'économie réelle et on tombe alors à 5% pour l'économie réelle et à 95% pour le flux spéculatif à très court terme. Voire 80% d'entre eux ont un temps de retour de moins d'une semaine et la majorité de moins d'une journée. Donc là, je pense qu'on est en plein dans l'éclatement de cette énorme bulle, en fait. Voilà, en tout cas, bon courage à tous et puis et à bientôt. Ciao.
Ouais, salut Daniel, là je suis dans la salle de Saint-Aignac où il y avait un meeting de l'UMT. Le meeting a été investi par des enseignants en colère parce que, comme tu sais, en ce moment dans l'éducation, c'est pas la joie, il y a plein de suppressions de postes, il y a le reset qui va être supprimé, les écoles maternelles qui sont menacées, et là on est 300 à crier un petit peu notre colère. Il y a Darkos qui devait venir, mais apparemment il a eu peur. Alors on a tous envie que les auditeurs de France Inter nous entendent.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Chaque jour, vous avez une espèce d'explosion, un spasme.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier.
Vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit « On reste dans la position, on augmente la taille de la position. » Donc pour le trader, c'est en fait un véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises pulsions.
Il est bullish, il est bearish, un chandelier bullish, une tendance bullish ou une tendance bearish, c'est une tendance baissière, etc.
Et vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish?
Moi, je suis plutôt bearish sur le CAC.
Vous avez une espèce d'explosion, un spasme. Paf.
Côté valeur, l'actualité s'avère plutôt fournie avec une avalanche d'applications chiffres. L'activité se dévoilait par les silences.
Salut, c'est la Basse, j'y suis, Daniel Mermet, avec François Ruffin, plus riche que riche.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, vous savez, nous on a créé le salon il y a déjà 8 ans maintenant, mais quand même un bon moment. Donc on a tous les courtiers qui viennent, les principaux courtiers. Donc on a des courtiers qui font des marchés américains, très vifs, très trading, à fort effet levier, du forex. On a également des gens qui font des varans. Les varans aussi, c'est très trading, c'est beaucoup de trading, du day trading. On a d'autres produits, donc les varans, Commerce Banque, les varans Société Générale, Click Options, et puis alors beaucoup, les plus gros courtiers sont venus avec nous, Boursorama, Cortal Consors, Dubu, vous l'avez vu, des courtiers Forex, voilà. Donc vous avez même des Italiens, beaucoup de Suisses également qui s'inscrivent. L'idée, présenter aux gens quelque chose qui leur permet d'apprendre une recette, une technique, une méthode. C'est ça l'idée avant tout. Vous avez pu voir, tout à l'heure j'ai fait ma conférence, là c'est Steve Leeson en ce moment qui fait sa conférence, l'après-midi il y aura Raggy Horner, il y aura du trading sur Forex, etc. Il y en a eu 7 avant, on a eu Bollinger, on a eu Bob Prechter, on a eu Glenn Nelly, on a eu Richard Arms, on a eu plein, tous les plus, Linda Bradford-Rajke, tous les plus grands de l'analyse technique et du trading dans le monde, on les fait venir. Je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir encore que peut-être Alexander Elder, qu'on n'a pas fait venir. Pour les puristes, un peu, les gens qui sont un peu pointus connaissent ça.
Donc c'est donner les instruments en fait, à tout à chacun, à tout le monde,
oui.
De faire du trading de manière plus scientifique.
Voilà, tout à fait. Quand les gens ont bien compris ça, après ils se mettent réellement à la bourse. Et c'est ces gens-là qui sont intéressants à développer.
Alors c'est la bourse, mais c'est la bourse à court terme. Là. C'est du day trading. Au jour le jour, on a vu des démonstrations 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure.
Oui,
c'est de l'investissement à court terme.
Alors regardez, de toute façon, quand vous avez un marché, un courtier Forex, alors vous avez...
Forex, c'est quoi?
Forex, c'est Foreign Exchange, c'est-à-dire c'est le marché des devises. Ça, c'est le marché très à la mode aujourd'hui et tous les gens qui sont un peu pointus commencent à faire du Forex.
Le titre Yahoo l'ont dit,
rien, vous n'y comprenez rien. On est en train de regarder nos écrans de contrôle. Eh bien, 78,17% des auditeurs de là-bas, si j'y suis, n'y comprennent rien à, ne comprennent rien à, au sabir que l'on vient d'entendre. Et c'est très grave, parce que c'est bien là ce qui vous empêche de vous enrichir. Il est grand temps pour vous d'apprendre à trader sur le Forex, d'apprendre à gérer des stocks de protection, d'apprendre tout sur les varans, de vous initier à la pratique des chandeliers japonais, maximiser les profits potentiels de chaque trade sur le momentum trading. Et oui, il est grand temps, le vent tourne, les temps changent, il faut s'adapter. Alors aujourd'hui, avec François Ruffin, nous allons au salon du trading à l'espace Cardin, 1 avenue Gabriel à Paris, et nous allons vous faire découvrir le monde enchanté du trading et qui sont ces traders. Qu'est-ce que ça veut dire trader ? Eh bien, ça veut dire intermédiaire financier qui réalise des opérations de placement ou de spéculation. On devrait dire en français opérateur de marché, mais quand même, trader, c'est quand même beaucoup plus chic. Et peut-être que grâce à nous, d'ici à 16h, vous apprendrez, comme je vous l'ai promis, à devenir plus riche que riche. Tant il est vrai que, par exemple, un monsieur comme Dries Ben Brahim de Goldman Sachs à Londres est quelqu'un qui gagne autour de 110 000 euros par jour de façon très très régulière. Il faut peut-être rappeler aussi que la moitié des Français disposent d'un niveau de vie inférieur à 1 315 € et de 1 975 € pour un couple, que 6,86 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qu'en 3 ans, la moitié des chômeurs ont perdu leurs indemnités, tandis que le nombre de smicards augmentait de 21%. Quel rapport, me direz-vous, entre ces risques riche, mirobolant et formidable, c'est Golden Boys que nous allons rencontrer. Et ce que je vous dis là, y a-t-il un effet de vase communicant ? Autrement dit, les spéculateurs, la spéculation vivrait-elle au détriment du bon peuple que nous sommes ? C'est bien possible et on essaiera en tous les cas de se le faire expliquer. Vous avez compris, nous allons à la rencontre des vampires, mais dans notre main, nous serrons très forts une gousse d'ail sur laquelle on peut lire ceci. Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ce qui les opprime. Jean-Paul Sartre.
Ça tire des plans sociaux sur la comète des redressements, qui traînent des charrettes de licenciements. Ça fonce sur les autoroutes de l'information pour être à l'heure sur les secteurs en expansion. Les OPA célibataires recherchent des partenaires sociaux, des plus-values, des avantages fiscaux, des baisses de charges sur le salariat, des fusions des trusts, de l'actionnariat. Mais il ne faut surtout pas inquiéter les marchés, ils sont si faibles, si fragiles, si vite effarouchés. Alors ça compresse du personnel pour que les capitaux ne s'envolent à tire d'aile à la recherche de meilleurs taux. Chip, chip. Et moi, Au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine. Je m'agite dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi, mais je me démène. Aller toujours plus vite, défendre l'esprit d'entreprise. Je brasse du vent, mais on m'invite à dire que tout cela me grise. Cherche des indices boursiers en faisant son petit marché financier. Ouais, ça se tripote, ça boursicote, ça spécule sec, ça s'excite en matant les cours de l'industrie high-tech. Ça brasse des stocks options, des stocks de fonds de pension, toujours prêt à dégainer son portefeuille d'actions. Ça maîtrise les coûts, les marges bénéficiaires pour se donner rendez-vous sur les places financières. Mais il faut bien renifler l'orientation des marchés pour espérer dénicher des richesses cachées. Un petit pays qu'on attrape au lasso et qu'on se privatise avant de lancer l'assaut des crabouillés, c'est de vie. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine et je vais être licencié en fin de semaine. Mais j'ai l'esprit d'initiative, je tripote les charges explosives, voir sauter mon entreprise me grise.
Il faut relever de nombreux défis et savoir attirer dans ces métiers de vrais professionnels.
Pourquoi vous voulez faire du Forex, monsieur ?
Eh bien, j'hésite à faire du Forex. Moi, je suis un particulier et j'hésite à faire du Forex car j'ai l'impression que je ne suis pas de taille à lutter contre des professionnels qui traitent, m'a-t-on dit, 3 000 milliards de dollars par jour avec certainement des super génies.
Et vous intervenez sur quoi pour l'instant, vous ?
Euronext.
Euronext.
SRD
quand même. Vente à découvert.
J'en ai fait un peu.
Un peu. Donc vous progressez tout doucement.
Avec BNP Paribas, il y a 15 jours. D'accord. Avec Renault, il y a 15 jours.
Pas de futur encore. Parce qu'on peut vendre à découvert. On est dans un marché où on essaye de jouer vraiment toutes les finesses du trading et même vendre alors qu'on n'a rien. Je n'ai rien. Alors ça, pour les gens classiques sur les actions, ne comprennent pas. Mais je n'ai même pas d'action France Télécom. Je commence par en vendre. Comment vous faites ? Ben, je vends. Je dis à mon courtier, j'en vends. Je pense que ça va baisser. J'en vends. Vends 500 France Télécom. Et ensuite, le but, c'est déboucler sa position en rachetant sa position. Donc, on considère d'abord les actions classiques. Le SRD, le futur et le marché roi quand même, le vrai marché quand même, c'est le Forex.
Le Forex, c'est achat de dollars contre euros.
C'est les devises,
euros.
Voilà, absolument, c'est les devises. Et aujourd'hui, et grâce à un salon comme aujourd'hui, on vient prêcher la bonne parole et dire que le Forex est enfin à la portée de tout le monde. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est très dynamique. Donc quelqu'un va acheter à 9 heures, là dans cet exemple, on a acheté vers...
Vous montrez l'écran. Hein.
Donc, ici, on a acheté donc en date valeur 27, on l'a acheté ce matin vers 10h. On a acheté 500 000 euros yens à 156,53 et il est maintenant pas loin de midi, je pense. Et on a déjà gagné 135 000 yens. Ça représente à peu près 1145 dollars, 1000 euros. Quelqu'un de normal va déboucler sa position maintenant, voilà, au bout de 2 heures et prendre son profit.
Alors derrière vous, il y a une affiche, c'est marqué Bullish Attitude, donc l'attitude du taureau avec un taureau qui est représenté.
Ouais.
C'est l'attitude que vous recommandez pour percer sur les marchés financiers.
C'est un peu agressif, hein, c'est un courtier agressif, etc. qui essaye de...
Le courtier répond qu'il est plus dynamique qu'agressif, plus pour la dynamique que pour l'agressivité.
Bullish, c'est l'aspect taureau. C'est haussier, c'est le symbole des haussiers aux États-Unis, symbole américain. Et le symbole baissier étant bearish, c'est-à-dire les ours qui sont lourds et qui pèsent sur le marché, etc. Donc souvent, vous entendrez ce type de remarques. Il est bullish, il est bearish.
Alors derrière vous, il y a le taureau. Pour vous aussi, c'est un sport, le trading en plus ?
Oui. C'est un sport. Les gens, je me souviens d'une vieille mamie, là, de 86 ans, qui me disait faire du trading sur Nasdaq, des allers-retours, du day trading sur le Nasdaq, tous les soirs, était devant son écran, etc. Ça paraît un peu surprenant, mais on voit que les gens s'y mettent de plus en plus, parce qu'on peut être très bien assis derrière son bureau et tout à la fois vivre une certaine aventure.
Prêcher la bonne parole, voilà ce que fait André Malpel, cet organisateur de ce salon d'analyse technique et de trading. André Malpel, c'est véritablement le missionnaire des marchés financiers qui va enseigner à toutes les nations, à chacun, le bonheur, la chance de ce que vous avez déjà compris, qui n'est rien d'autre que une sorte de secte, un monde avide et cupide, celui du profit fou. Bon, bah vous dites, on va passer une heure dans un genre de casino de Las Vegas avec des gens un peu la même chose, quoi, des gens un peu addicts qui font du pognon. Mais y a-t-il un système de vases communicants? Est-ce que ces spéculations, oui ou non, se font au détriment du bon peuple que nous sommes? Nous sommes évidemment le bon peuple, et au détriment de l'économie. Est-ce que plus les uns, ceux-là, s'enrichissent, est-ce que ça fait que les autres s'appauvrissent? Alors, avant de continuer ce reportage, c'est pas mal de l'éclairer avec une sorte d'avertissement, d'éclairage a priori, comme ça, avant de continuer le voyage, la balade, avec Dominique Plion. Dominique Plion, il est prof d'économie, il est président du conseil scientifique d'Attaque, et il a longuement réfléchi sur ces questions, la question étant, y a-t-il un effet de parasitage? Le spéculateur est-il ou non, monsieur Plion, un parasite?
Monsieur Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie. Vous êtes par ailleurs président du conseil scientifique d'Attaque.
Tout à fait, oui.
Je me suis rendu au salon du trading et il apparaît qu'il y a un jeu sur les monnaies, un jeu sur les actions, un jeu sur les contrats futurs. Mais est-ce que tout ça, c'est juste un casino complètement détaché du monde, ou bien ça, est-ce que ça a des conséquences sur le monde social, sur le monde économique? Est-ce qu'il y a un lien entre ces spéculateurs et, par exemple, les salariés précaires?
Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un lien très, très fort, qui évidemment n'est pas toujours visible par les traders eux-mêmes, puisque eux voient ça à leur niveau, ce que nous, économistes, appelons au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des opérations individuelles, et ils ont le sentiment, vraisemblablement, que la spéculation qu'ils mènent n'a pas beaucoup d'effet sur le reste de l'économie. Mais en fait, c'est complètement erroné comme conception. Je voudrais reprendre tout simplement l'analyse qui me paraît être la meilleure de la spéculation, qui est celle qui a été proposée par Keynes, John Maynard Keynes. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit finalement, dans la sphère économique, au sens large, il y a deux types d'activités. Il y a ce qu'il appelle l'activité d'entreprendre, c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui prennent des risques en mettant de l'argent pour acheter des matières premières, acheter des machines, payer des salariés pour produire de la richesse, c'est-à-dire des biens, des services, pour bien sûr la revendre avec un profit. Et ce profit rémunère d'ailleurs les risques qu'ils prennent, comme tout entrepreneur. Et Keynes explique aussi qu'à côté de cette activité d'entreprendre, il y a l'activité de spéculer, qui est un groupe d'acteurs très différents, qui, eux, cherchent à gagner de l'argent en menant une activité qui n'a aucun rapport direct avec la sphère productive, avec la sphère de production de richesses, qui consiste simplement à jouer à la hausse ou à la baisse des prix. Par exemple, les prix des monnaies, c'est ce qu'on appelle les taux de change, les prix boursiers, les cours de change, mais ça peut être aussi la spéculation immobilière. Alors cette activité-là, elle a un rapport direct et souvent négatif avec l'activité d'entreprendre. Pourquoi? Eh bien, quand on spécule, c'est-à-dire qu'on prend des ressources financières qu'on ne consacre pas à l'activité d'entreprendre. Donc, si vous voulez, déjà, il y a un choix. Et plutôt que d'encourager la production de richesses et d'augmenter le bien-être de la population par plus de biens et de services qui sont créés, on préfère utiliser cet argent pour spéculer. Il y a une diversion, il y a une activité qui est parasitaire, on pourrait dire aussi, qui s'exerce sur l'activité.
Le groupe fabricant de cigarettes Altadis, l'ex-Seita, a confirmé mardi la suppression de 700 emplois. Les salariés protestent contre ce qu'ils appellent des licenciements boursiers, soulignant les hausses des bénéfices de la société depuis 2 ans.
Colère des syndicats contre Michelin, qui fait de gros bénéfices et supprime 7500 emplois.
Veillée d'armes chez Moulinex. 1100 emplois sont menacés, nombre de salariés sont choqués.
Il apparaît qu'aujourd'hui, les actionnaires retournent leur veste, je crois qu'on peut le dire comme ça.
À Lannion, Alcatel a prévu de sacrifier 1400 emplois d'ici la fin de l'année. Ici, c'est Mitsubishi qui taille dans ses effectifs.
À la raison de notre colère, elle se résume en quelques chiffres. ST Microélectronique, 9 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de bénéfices, 40% de marge brute. Et ST licencie 600 personnes à Rennes.
Mais il y a plus grave. Lorsque les gouvernements des pays en voie de développement s'endettent à l'international, par exemple en empruntant du dollar, pour financer leurs importations ou pour financer un déficit budgétaire, par exemple. Bon. Eh bien, après, ils sont à la merci de la spéculation internationale. Pourquoi ? Ben parce que les investisseurs vont venir acheter, par exemple, leurs bons du Trésor, vont venir acheter leurs dettes. Mais s'ils ne sont pas satisfaits des rendements qu'on leur donne, par exemple, ou s'ils ont une inquiétude sur, par exemple, la stabilité d'un gouvernement, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont immédiatement déplacer leur argent, vendre les titres et quitter le pays pour aller sur un autre pays qui leur inspire davantage confiance ou où ils espèrent des rendements meilleurs.
Par exemple, c'était le cas en Argentine ?
Ah ben, ça, c'était le cas en Argentine, mais c'était le cas aussi au Mexique en 1994-95, en Russie en 1998. En Asie du Sud-Est, il y a eu une grande crise en 1997-98, d'ailleurs, qui est à l'origine de la naissance d'Attaque, hein, qui est née comme en réaction contre cette spéculation internationale qui était dévastatrice pour les pays. Par exemple, en Indonésie, il y a eu des millions, des dizaines de millions de travailleurs dans les villes, les grandes villes, qui ont été jetés à la rue parce que les entreprises avaient fermé leurs portes, parce qu'elles avaient été totalement déstabilisées par la spéculation internationale, c'est-à-dire le fait que les investisseurs avaient mis de l'argent dans ces entreprises et s'étaient retirés brutalement pour prendre leurs bénéfices. Et donc, ce que ne voient pas ces spéculateurs, et ce qu'ils ne veulent pas voir d'ailleurs, probablement, c'est que leur activité, en fait, peut avoir un coût pour la société absolument considérable, pas à chaque fois, évidemment, mais quand les affaires tournent mal, parce que, en fait, ce qu'on sait bien aussi, c'est que les spéculateurs ont un comportement grégaire et mimétique. C'est-à-dire qu'ils vont tous dans le même sens au même moment.
Vous voulez analyser le comportement des acteurs à la fermeture des marchés ? Savoir comment ils modifieront leur jeu demain ? Faites confiance aux spécialistes.
Vous voulez un compte-rendu de la séance ? On s'en charge.
Tout à vos bourses à 17h30 sur Bloomberg Télévision.
On est en fait confronté au dédoublement de sa personnalité. C'est-à-dire, vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position, fermons la bécane et allons faire un tour avec les enfants. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit « Non, non, reste dans la position ou augmente la taille de la position. » Donc, pour le trader, c'est en fait une véritable, un véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ses mauvaises pulsions.
Donc vous dites, si on joue scientifiquement, en se contrôlant psychologiquement, en jouant 10 minutes à une demi-heure par jour, on parvient à doubler son capital en un an.
Mais vous voyez comme ça a bougé, on était à plus 95, maintenant on est à plus 155.
C'est-à-dire que là, la bourse, elle descend, et vous, vous gagnez quand même de l'argent.
Oui, parce que j'ai vendu à un prix élevé en vue de racheter à un prix inférieur, quoi. Donc ça s'appelle vendre à découvert ou vendre short dans le jargon un peu anglo-saxon. Vous voyez, ça va dans notre sens. Donc.
Là, on est à 215 euros.
Ouais.
Ça, c'est pour un investissement de combien ?
1500 euros.
Donc là, on est à 225 euros. Donc là, vous avez un rendement qui est déjà de 15% en 20 minutes.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Chaque jour, vous avez une espèce d'explosion, un spasme. C'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau. Paf ! Le marché est très... Je vais vous montrer, il y a deux jours, le marché s'est un peu emporté. Il a fait un gain énorme, en quelques secondes, hein, mais vraiment. Parce que, je vais juste vous montrer la taille, quoi. Voilà. Cette immense bougie qui représente, allez, si je prends tout ça, ça représente 140 points en l'espace de, je sais pas, 10 minutes. Une personne qui aurait été positionnée sur le CAC, elle aurait capturé 840 en 10 minutes.
840 euros, ça veut dire là un rendement de plus de 60% en 10 minutes.
Ouais.
Et vous, vous y étiez positionné à ce moment-là ?
Et moi, j'étais positionné.
Donc ouais. vous les avez gagnés les 840 euros ?
Moi, j'ai gagné. Moi, j'avais gagné 700 euros. Mais une fois de plus, je dirais, il faut pas se focaliser sur l'aspect argent. Il faut se focaliser sur l'aspect bonification de soi-même. Quelqu'un qui a trop d'ego, par exemple, peut pas réussir. Parce que le marché n'a pas de chef. Et lui peut pas tout seul aller se mettre face au marché et essayer de faire gagner son trade face à tous les autres. Donc c'est aussi un exercice d'humilité, quoi.
Voilà, c'est pas l'église de Scientologie, c'est pas un témoin de Jéhovah, c'est pas une religion, véritablement. C'est pas un prêcheur que vous venez d'entendre, mais ça y ressemble pas mal. C'est un militant de la spéculation libérale, un type tout à fait sympathique, qui s'appelle Pascal Hirtz, et que nous rencontrons dans ce salon qui s'est tenu fin mars, salon d'analyse technique et de trading. Pourquoi ça? Parce qu'il est grand temps, amis auditeurs de la base où j'y suis, de comprendre dans quel monde vous vivez, vous êtes archaïque, vous êtes en retard, etc. Et il est grand temps d'optimiser votre portefeuille, d'améliorer vos résultats, d'échafauder un scénario d'intervention, et puis surtout essayer de déterminer les retournements de marché et repérer les signaux ou points d'entrée les plus appropriés, ou encore trouver là où les méthodes d'intervention les plus adéquates, bien évidemment, c'est ce que vous attendez de nous et d'une radio comme France Inter, c'est vous permettre de vous enrichir. Alors on continue donc dans ce salon avec Pascal Hirtz.
Le nom de votre société, c'est Self Invest.
Ouais,
donc
ouais.
Investis toi-même en français.
Bah, le trading s'est beaucoup démocratisé parce qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les métiers de gestion, les métiers de courtier, de prendre l'or de son client, tout ça c'était en fait géré par les mêmes maisons, quoi. Et puis il y a eu une déréglementation dans les années 70, 80, et l'internet à la fin des années 90. Maintenant n'importe qui peut ouvrir un compte.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu un mouvement politique de déréglementation et puis un mouvement technologique. C'est ce double mouvement-là qui a permis la démocratisation de...
Si on veut, oui, on peut dire ça comme ça.
Finalement, c'est la spéculation au jour le jour, ce trading.
Oui. À la limite, d'autres clients font la même chose qu'un hedge fund, hein. qu'un gérant de hedge fund. La seule chose, c'est que chez nous, il va le faire à une petite échelle et le hedge fund va le faire à une grande échelle.
Et quand il y avait des propositions à un moment de dire il faut taxer la spéculation, qu'est-ce que vous en pensez?
Comment dire, c'est la réaction, on va dire, typique des gens un peu ultra-gauche. Je dirais qu'ils comprennent pas grand-chose à l'économie. Enfin, qu'ils voient du mal où il n'y a pas de mal, quoi. Si leurs recommandations étaient appliquées, grosso modo, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait soit l'argent va ailleurs, moins d'investissement, moins de prospérité à long terme, quoi. En fait, l'être humain, il est naturellement créateur de richesses. Tant que, je dirais, tant qu'il n'y a pas d'inflation, tant qu'il n'y a pas de guerre, et tant que l'économie n'est pas étouffée par l'État, la richesse s'accroît.
Est-ce que vous voyez des risques aujourd'hui que l'économie soit un peu étouffée par l'État? Il y a des mesures qui vous font peur?
Ben, je dirais que... il y a une chose qui, à mon avis, que nos zones politiques n'ont pas compris, c'est en France, par exemple, au niveau de tout ce qui est imposition, si ce niveau de taxation était baissé, mais massivement, pas d'1% ou 2, mais si on passait, je ne sais pas moi, de 38 à 28, ce qui a été fait dans plein d'autres pays. Mais les gens se lanceraient. Si on baisse ces fameux impôts, etc., la France, c'est comme si elle devenait soudainement un aimant pour tous les investissements. Et ça contribuerait alors à la croissance. C'est comme ça que la croissance se crée, quoi. Je crois que intellectuellement, les idées n'ont pas pénétré le pays. Ces idées-là, elles étaient minoritaires en 1960. Mais il y a des gens comme Milton Friedman, Hayek. Et ces idées libérales, en France, elles sont en totale minorité, quoi. Il faut une fois expliquer ça aux Français. Le détonateur, c'est la baisse des impôts. Il n'y a pas photo. Ben, la France a besoin d'ouverture. Il y a trop de gens qui sont dans la fonction publique. Il y a trop de gens qui ne sont pas assez ouverts. Et alors, vous êtes...
On travaille à la rédaction. Moi, la rédaction, ouais. Je m'ai demandé vous de faire un peu plus de finance, quoi.
Ouais, ouais.
Bon, parce qu'il y a Jean-Marc Sylvestre. Je ne sais pas si vous, ouais. Ce que vous en pensez, Jean-Marc Sylvestre.
Ça va dans le bon sens. Et il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est le dimanche matin.
Samedi matin, rue des Entrepreneurs.
Rue des Entrepreneurs, c'est pas mal aussi. Il y a un mouvement au niveau des idées. Ce mouvement, il est inexorable. Il est en train de contaminer tout le monde, mais je dirais dans le bon sens, quoi. Au niveau des idées, ça commence un peu à aller un peu plus vers la droite, mais c'est aussi parce que les gens y voient, et seulement il y a juste la France est un peu imperméable. C'est très intéressant, vous devriez une fois aller, une idée de reportage, aller une fois dans une librairie, prenez un petit échantillon de vraiment les auteurs libéraux, Hayek, Milton Friedman, de temps en temps on en voit un. Mais allez voir tous les autres livres qui cognent sur le capitalisme et des étagères pleines, quoi.
Et l'imprimerie, ça a toujours été un peu aux mains des marxistes,
ouais.
Quoi.
En plus, quoi. En plus, quoi.
Ah oui, faut vous méfier de l'imprimerie, hein. Mais je vous signale, en toute objectivité, un numéro du Point, Le Point, un hors-série, avec les textes fondamentaux du libéralisme, présentés par Nicolas Babrez, Raymond Boudon, Lucien Jaume et Jacques Marseille, avec des textes de Smith, Tocqueville, Hayek, etc., et pour édifier votre connaissance et votre conscience sur ce qu'est véritablement le libéralisme. Mais à cela, il manquera tout de même la dimension un peu magique, la dimension psychologique. Eh oui, psychologisons la vie un peu plus et puis enrichissons-nous psychologiquement avec André Brignone, rencontré dans ce salon d'analyse technique et de trading.
Être en forme, j'appelle ça la juste attitude, c'est-à-dire une attitude de vide mental permettant d'agir sur le marché. Si vous êtes en train de trader et que vous vous dites « je risque de perdre l'argent de mes vacances en ce moment, si jamais ça ne va pas dans le bon sens », ben vous êtes fichu dès l'origine. Pour cela donc, il y a toute une série, je dirais, d'entraînements qui permettent, si vous voulez, en utilisant la respiration, en utilisant certaines techniques de décontraction rapide, en utilisant des techniques de reprogrammation du cerveau qui vous mettent dans la bonne attitude, vous permettant de réagir exactement, de réagir quand il le faut. De nombreux traders agissent, font tous leurs plans de façon complètement décontractée et au moment d'arriver à l'action, ils sont affolés parce qu'ils voient le marché qui part dans un sens, ils se jettent dessus. Toujours pour ceux qui ont suivi mes conférences, vous savez comment vient l'affolement dans le système, comment le cerveau va petit à petit vous bloquer totalement pour vous faire faire ce que vous ne devez pas faire. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que l'aspect psychologique a une énorme importance quand les marchés deviennent très volatiles, deviennent très mouvementés et très brusques. Voilà, comme on dit au Théâtre des Deux Ânes, soyons fins et printaniers. Merci, posez les questions maintenant si vous voulez.
Donc, vous êtes un spécialiste, monsieur, de la psychologie des marchés.
Oui. Qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'investisseur? Ben, c'est, l'investisseur, il a besoin d'avoir une certaine attitude vis-à-vis du marché. Cette attitude doit être une attitude d'un certain détachement qui lui permette de se mettre exactement en phase avec le marché. Donc, si vous voulez, ce que nous essayons de faire, c'est d'orienter les gens à travers nos livres, à travers les conférences, à travers un certain nombre de choses, vers l'acquisition d'une attitude que nous appelons la juste attitude et qui permette de se mettre exactement en phase avec le marché, parce que le marché a un énorme inconvénient. Non seulement il peut atteindre votre capital financier, mais il peut atteindre votre capital santé.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire quand un trader a, par exemple, brutalement une baisse alors qu'il était à la hausse, il va ressentir un choc psychologique très très important. Petit à petit, son humeur va changer, il va se transformer, il va avoir des problèmes avec sa famille, il va y avoir toute une série de conséquences qui vont arriver du fait, si vous voulez, de la mauvaise gestion du mouvement de marché vis-à-vis de soi-même.
Et donc, comment il faut ouvrir une cellule d'écoute psychologique? Comment on fait?
Pas du tout. On se prend en main. Et c'est pour cela que mon livre s'appelle en particulier « Le Tao de la bourse et du trading », parce que c'est une attitude. Vous vous transformez petit à petit, vous vous formez en quelque sorte à avoir un comportement psychologique qui est adapté exactement à celui du marché. Et à ce moment-là, vous vous faites une danse avec le marché, c'est-à-dire que vous dansez dans la bonne mesure et avec le bon tempo.
Comment je peux faire, moi, pour devenir en phase avec le marché?
La première chose à faire, c'est prendre conscience de son propre comportement. Et ensuite, il existe toute une technique à la fois de relaxation, de reprogrammation de son cerveau, de reprogrammation de son comportement, pour pouvoir petit à petit, exactement si vous voulez, comme un judoka va devenir un intuitif, en quelque sorte, du mouvement de l'adversaire, vous allez devenir un intuitif du mouvement du marché. Vous-même, vous aurez intégré la danse du marché.
Et c'est parce que vous avez rencontré dans votre entourage, dans vos proches, des gens qui ont eu des gros coups au moral?
Absolument. J'ai rencontré, ma femme fait du trading d'une part, moi-même je fais du trading, mais en plus de ça, si vous voulez, j'ai rencontré un certain nombre d'amis qui avaient d'énormes problèmes et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir comment modifier ce comportement. Ça demande, si vous voulez, la remise en forme d'un trader qui a eu de gros chocs, demande en gros 2 mois.
C'est-à-dire que le fait d'avoir subi un échec, après on a la peur, c'est comme quand on est tombé à vélo ou quand on est tombé au ski.
Absolument.
On a peur de se remettre sur le marché.
Absolument. Et ce qui est plus grave, c'est que le marché vous donne toute une série de coups souvent. Et donc quand vous arrivez à ramasser 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, vous vous remettez vous-même en question. Le plus grave, c'est que le trading vous remet en question votre propre personnalité à vos yeux. Et c'est là où vous commencez à vous détruire petit à petit.
Vous avez déjà la pipe du psychanalyste. Vous ne comptez pas ouvrir un cabinet ?
Pas du tout. Mais enfin, je fais déjà du coaching d'investisseurs. Ça, c'est autre chose.
De plus en plus, ça devient le métier de banquier. Les banques sont entrées en force, montent en puissance sur cette activité parce que les autorités de réglementation doivent encore donner leur aval. Le titre a gagné plus de 13%.
Politique, j'ai une petite anecdote à vous donner. C'est ma plus grosse perte en bourse. Elle a eu lieu en 1995, à l'été 1995, quand Alain Madelin s'est relativement chamaillé à Brégançon avec Alain Juppé. Alain Madelin, ministre des Finances de l'époque, a démissionné. Donc ça a eu un impact immédiat sur les marchés financiers. On est passé d'un CAC qui était dans les 2000 à 1713. Donc il y a eu une très forte incidence de cet événement politique français sur le marché français en 1995. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1997, deux ans plus tard, quand Dominique Strauss-Kahn a lui aussi démissionné. Dans la journée, il y a eu une petite baisse intraday de 2%. Je crois que même qu'on a dû finir la journée positive et le marché a continué son mouvement, sa hausse. Donc en 1995, il y a vraiment eu une charnière. On a vraiment eu une conversion de l'économie française à l'économie de marché.
Donc finalement, la politique, là, elle finit par n'avoir plus de poids face...
Aujourd'hui, 10 ans après, c'est 10-12 ans après, puisque en 1995, l'élection de Jacques Chirac s'est faite sur le thème de la fracture sociale. Donc il y avait, vous vous en souvenez peut-être, à l'automne 1995, on a eu les plus dures grèves de l'après-guerre. Moi, j'étais fonctionnaire à l'époque, j'étais donc dans l'armée. On est même allé nous dire, vous ne serez peut-être pas payé. Donc c'était un truc irréaliste, mais allez nous dire... il y aura peut-être des problèmes pour vous payer, c'était quand même quelque chose de grave, c'était pour dire que c'est... il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc à cette époque-là, le président Chirac est allé devant le Congrès et le Sénat américain, il a en quelque sorte dit « bon ben maintenant je me convertis à l'économie de marché ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait une politique, il a été élu sur une politique en mars 1995, et en octobre déjà, il changeait de politique. Il y a eu un changement complet de politique, et c'est à partir du moment où il y a eu cette orientation sur l'économie de marché. Le CAC est passé de 1700 points à, comme on le sait, à 7000 points, avec des exagérations.
Donc c'était une bonne nouvelle, cette conversion ? C'était une conversion réaliste ?
Voilà, tout à fait. Parce que la France ne peut pas être isolée.
Mais non, la France ne peut pas être isolée. Ainsi parle Alain Véroc, qui est créateur de ProAT, le principal site communautaire des traders. Je vous rappelle qu'on est dans ce salon du trading. Et bien, ce que vient nous dire Alain Véroc, c'est que la politique est sans conséquence sur la finance. Il vient de nous expliquer les moments, les charnières historiques de cette conversion, a-t-il dit. Qu'en pense Dominique Plion, économiste et conseiller scientifique d'Attac aujourd'hui? Quelles sont les réactions, les positions des élites politiques qui briguent nos suffrages face à la confiscation, à la prédation de l'économie par la spéculation?
Il y a 26 ans maintenant, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, la bourse avait chuté en une seule journée. Là, quand on interroge les traders sur les conséquences des résultats de l'élection présidentielle française sur les marchés, sur leur activité et puis tout ça, pour eux, que ce soit Sarkozy, que ce soit Bayrou, que ce soit Royal, c'est du pareil au même.
Aujourd'hui, les socialistes, par exemple, sont devenus des sociolibéraux. Et se coulent totalement dans le moule de l'économie, du capitalisme financier. Même s'ils ont des discours
parfois agressifs, et que ce soit Sarkozy, d'ailleurs, ou Bérou, ou bien Ségolène Royal, ils ont aussi des discours du même genre, critiques, hein, par rapport à la spéculation. On a entendu Chirac aussi, dans son temps, ils ont tous fait les mêmes discours. C'est pour donner le change, sur le plan intérieur notamment, mais en fait, on a bien vu que les politiques qu'ils mènent ne s'attaquent absolument pas aux racines de la spéculation et de la financiarisation de nos économies. Bon, moi, mon analyse, hein, notre analyse à ATTAC, c'est qu'il y a une alliance des élites politiques, des partis de gouvernement, donc, dont le Parti Socialiste, dont l'UDF, dont l'UMP, par exemple, avec les élites économiques et financières. Donc. Et donc, ces gens-là ont parti liés. Hein. Et il y a un vrai problème aujourd'hui de confiscation, de prédation, hein, des marchés financiers sur la sphère réelle, sur les salaires dans nos économies. Et ça, c'est quelque chose que les grands dirigeants, les dirigeants des grands partis ne veulent pas aborder. Parce que, encore une fois, de notre point de vue, ils ont fait alliance, ils ont parti lié avec les élites économiques et financières. Donc, il n'y a absolument plus d'inquiétude.
Sono di clemas, ma non sai, sa, che c'ha vando del. Me bucciardo semas, che se buccia camavas, nai business, nai, ma non c'è cipel. A cana sembarvalo, faccia vando l'usco bravo. Democratia, sì, cirvea orta. Efta castela, pefta nivela, efta cotora, cerde sunakea, ande sai, so, barba lippe morta.
Oh, madre mia, per mia vita molto grazia.
S'empare des marchés financiers, la bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%. La tempête est générale, effondrement à Moscou et à Rio. Tentative d'explication dans un instant. À Paris, Nicolas Sarkozy a réuni...
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin du 25 avril 2007. Merci à André Malpel, Pascal Hirsch, Érico, Andréa Brignone, Pierre-Antoine Dussoulier, Alain Véroc, Dominique Plion et François Morin. Les livres, Le nouveau mur de l'argent de François Morin, justement aux éditions du Seuil, et Les traders d'Olivier Gottschaux aux éditions La Découverte. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions. Là-bas, si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante, Charlotte Perriche, Feu du répondeur Agnès Le Bot. Le numéro du répondeur de la BACIJ Suisse est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.